Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une affaire criminelle aujourd'hui de 2004 qui a pour théâtre un tout petit hameau à 60 km de Dijon, en Côte d'Or. L'enquête sur le meurtre de Valérie Barry, sur laquelle on s'est acharné, 13 coups de couteau, la tête fracassée sur le sol en pierre. Une enquête par ailleurs sans preuve absolue et qui, au moment du procès, va placer les jurés face à leur intime conviction, alors que l'accusé nie. Et il n'ira jusqu'au bout. Et encore aujourd'hui, il nie. Histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 26 mars 2004, les pompiers de Dijon en Côte d'Or reçoivent un appel paniqué. À l'autre bout du fil, un homme qui hurle dans son combiné, tellement fort qu'on a du mal à le comprendre.
Tu es à l'anneau ! À l'anneau !
Monsieur, parlez moins fort, je ne vous comprends pas. Vous êtes où ?
Je suis à l'anneau ! Monsieur Barry ! Monsieur Barry !
À l'anneau, vous dites ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur ?
Ma femme !
D'accord, monsieur. Je vous envoie les pompiers de Pouilly en Auxois. Et je vous mets tout de suite en relation avec le SAMU. Hein, surtout, restez en ligne. L'homme est maintenant en ligne avec le SAMU, toujours aussi paniqué.
Ma femme ! Elle est étendue par terre ! Elle est couverte de sang !
Elle respire, monsieur ?
Non ! Elle respire plus ! Je vois pas mes chiens !
Vous voyez pas vos chiens ?
Non !
D'accord, les secours sont en route, monsieur.
Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qui c'est qui fait ça ?
Quand les pompiers arrivent sur place, une petite ferme à l'anneau, donc, à 60 km de Dijon, ils le trouvent, lui, dans la cour, couvert de sang, perdu, quasi délirant. Et elle ? Au milieu du salon, dans une mare de sang. C'est trop tard, beaucoup trop tard. Elle est morte. Elle s'appelait Valérie Barry. Elle avait 38 ans. Le mari, je vous l'ai dit, est lui-même couvert de sang, très agité, choqué. C'est normal.
Je comprends pas ce qui s'est passé. Je l'ai trouvé comme ça. Ma femme ! Ma femme !
Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous.
Et les chiens ? Je sais pas où ils sont, les chiens.
On ne comprend pas la moitié de ce qu'il raconte. Ses nerfs ont lâché. Et donc les pompiers l'embarquent pour l'hôpital de Dijon. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Valérie et Laurent ont une petite fille ensemble. Laura, 4 ans. Sa mère est morte, son père est à l'hôpital. Alors on s'organise pour qu'une voisine la récupère quand elle rentre de l'école par le bus. Alors que s'est-il passé ? On est en pleine cambrouse. L'anneau est un hameau de 12 habitants. Rattaché à Arconcé, un village d'un peu plus de 200 habitants. Qui est venu là, au milieu des champs, tuer Valérie Barry ? Les gendarmes arrivent sur place et ils font les premières constatations. Bon, de toute évidence, elle a été poignardée. À plusieurs reprises. Et l'arme du crime est là. Près du cadavre, un couteau, un grand couteau, genre couteau de boucher, avec une lame d'au moins 20 cm. Regarde là. T'as vu dans ses mains ? On dirait des cheveux. Prélève-moi ça. On trouve aussi des cheveux sur le bas de son survêtement. Et autour dans le salon, un souk incroyable. Pas forcément lié au meurtre d'ailleurs. La pièce est manifestement en rénovation. Les meubles ont été déplacés. C'est un chantier. Cela dit, le reste de la maison aussi est en désordre. Le sac de Valérie est retourné par terre dans la cuisine. Dans la chambre, les armoires ont été vidées. Les vêtements sont là, entassés sur le sol. Et sur le bureau, il y a une boîte en métal, une sorte de caisse. Une boîte à monnaie, vide. Moi, je pense que c'est un cambriolage, non? Mais ce qui est bizarre, regarde, c'est que la porte n'a pas été fracturée. Si on part sur un cambriolage, il n'y a pas que ça qui est étrange. Le mari dira plus tard que des objets ont disparu. Mais des objets qui n'ont aucune valeur. Il manque, figurez-vous, des chaussettes, un mug, des sacs à congélation et 100 euros qui étaient dans la fameuse caisse. Est-ce qu'on tue quelqu'un pour ça, pour si peu ? Retour à la ferme des Paris. Et les chiens, alors ? Où sont les chiens ? Vous vous souvenez que quand il appelle les pompiers, le mari parle tout de suite des chiens qui ont disparu. Normalement, il s'agit de deux chiens, un Rottweiler et un Border Collie, qui montent la garde devant la maison, attachés ou libres, ça dépend. Les gendarmes, eux, n'ont aucun mal à retrouver les chiens. De la maison, ils les entendent aboyer. Ils sont à quoi ? 10 mètres de la maison, dans une dépendance. Qui a pu les enfermer là ? Naturellement, les gendarmes vont interroger le mari à l'hôpital. Ils veulent connaître l'emploi du temps du couple le matin du drame. Femme était en congé. Elle devait poncer les poutres du salon. On fait des travaux en ce moment. Et vous, monsieur ? Votre emploi du temps ? Moi, je suis volailler. Je suis allé faire une livraison dans un restaurant à Dijon. Et c'est quand je suis rentré que je l'ai trouvé. Dans le salon. Et au passage, le mari raconte leur histoire, leur belle histoire, qui vient de s'arrêter là, d'un coup. Lui est un ancien militaire, et il y a 3 ans, il a décidé de se reconvertir en éleveur de poulets. Et donc avec Valérie, ils se sont installés dans ce petit village. Valérie était aide-soignante, c'était pas facile, hein. Elle devait faire 1 heure de route tous les jours pour aller travailler. Au lendemain du drame, les gendarmes retournent à la ferme des Barry pour une perquisition, en présence de Laurent Barry, c'est la règle. Je vous l'ai dit, il est éleveur de poulets, et donc forcément, dans l'abattoir à volaille, les gendarmes tombent sur des couteaux, beaucoup de couteaux, bien tranchants. Dites-moi, monsieur Barry, on a saisi l'arme du crime, c'est un grand couteau d'environ 30 cm avec un manche en plastique vert. Ça vient d'ici, ça vient de votre abattoir ? Oui et non. C'est un de mes anciens couteaux, mais comme il coupait pas très bien, je l'avais mis dans la cuisine, sur le rebord de la fenêtre, je crois. C'est donc là que le tueur a trouvé le couteau, sur le rebord de la fenêtre. Détail intéressant, parce que ça veut dire qu'il ne vient pas pour tuer. Il n'emmène pas son arme avec lui, il la trouve sur place. Et puis là-dessus tombent les résultats de l'autopsie du corps de Valérie. Le légiste a compté les coups de couteau. 4 coups au thorax, 2 dans le dos et 2 dans la poitrine. L'un d'eux perfore le poumon, mais ça n'est pas tout. Le légiste a aussi compté 8 coups de couteau à la tête, dont un sous le menton qui a tranché la jugulaire. On l'a égorgé. Mais vous n'avez pas encore tout entendu. Ce qui l'a tué, c'est un traumatisme crânien. Le légiste pense que bam, 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 le tueur lui a fracassé la tête à plusieurs reprises sur le sol du salon en pierre. Ce meurtre n'a pas été commis comme ça, sur un coup de tête. C'est un massacre. Il en faut de la rage pour balancer 13 coups de couteau et ensuite, ou avant, on ne sait pas, bam, 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 la tête sur les dalles en pierre. À part ça, elle n'a pas été violée, elle n'avait pas bu, elle n'avait pas pris de drogue ni de médicaments. Quant à l'heure de la mort, d'après le légiste, elle se situe entre 9h45 et 11h30 du matin. Alors pourquoi elle et qui ? Naturellement, comme vous sans doute, les gendarmes pensent d'abord au mari. Au mari, avec un X. Car Valérie a été mariée une première fois avant d'épouser Laurent. Est-ce que ça ne pourrait pas être le premier mari ? Une vengeance amoureuse. Les gendarmes vont l'interroger, il a un alibi en béton. À l'heure du meurtre, quelque part entre 9h45 et 11h30, il était au travail. Ou alors, le deuxième mari, Laurent, qui dit avoir découvert le corps en rentrant d'une livraison de poulet et qu'on retrouve couvert de sang dans la cour de sa ferme, à moitié délirant. Les voisins que les gendarmes vont interroger ont beaucoup de mal à y croire. Ce sont des gens bien intégrés. Impeccable. C'est vrai qu'avec la sécheresse l'an passé, ils ont eu beaucoup de pertes. Sans doute qu'ils avaient des problèmes de sous. Elle, je vais vous dire, elle avait l'air tracassée. Hein. Ça lui faisait du souci. C'est pas facile, l'élevage. Hein. Personne ne peut imaginer que Laurent ait tué sa femme. Mais les gendarmes n'écartent pas totalement l'hypothèse. Normal. Je vous rappelle qu'on le retrouve en sang dans la cour de sa ferme, et donc les gendarmes l'interrogent sur son emploi du temps le matin du meurtre. Le matin, j'ai commencé par faire des factures, et puis ensuite j'ai préparé ma volaille. Et je dirais que vers 9h, je suis parti livrer à Dijon. Avec quel véhicule, monsieur ? J'ai pas pris ma camionnette, j'ai pris la Ford Escort de Valérie. En ce qui concerne les chiens, monsieur Barry, où sont-ils quand vous partez de chez vous ?
Ils sont comme d'habitude. Il y en a un qui est attaché, et puis l'autre qui est libre, quoi.
Les gendarmes vont donc voir le restaurateur de Dijon à qui il prétend avoir livré sa volaille.
Oui, je confirme qu'il est passé chez moi.
À quelle heure ?
Vers 10h15.
Laurent Barry dit qu'ensuite, il est passé voir un ami garagiste, Thierry, à Chenove, près de Dijon.
Laurent ? Il est passé.
À quelle heure ?
Je dirais un peu avant 11h. Il a pas traîné, hein. Il m'a dit qu'il avait une brebis qui allait mettre bas. En 11h05, il était parti.
Et donc, on mesure le temps qu'il faut pour aller de chez le copain Thierry jusqu'à la ferme. Laurent Barry a-t-il pu matériellement tuer sa femme ? Laurent Barry dit qu'il quitte la ferme à 9h. Le client restaurateur de Dijon dit qu'il livre ses volailles à 10h15. Et l'ami garagiste qu'il arrive vers 11h et qu'il ne reste pas longtemps, mettons 10 minutes. Ensuite, il lui faut 40 minutes, les gendarmes ont chronométré, pour rentrer chez lui. Le mari ne peut pas, matériellement, avoir commis le crime. À aucun moment dans la matinée, il n'a le temps de faire l'aller-retour jusqu'à chez lui, c'est trop loin. Et il rentre à la ferme bien après l'heure du crime. Donc, ça n'est pas lui non plus. Donc, qui ? On en revient au rôdeur, au cambrioleur. Et vu la violence du meurtre, la tête qu'on fracasse sur le sol plusieurs fois, je vous rappelle, bam, 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 on se dit c'était un malade mental. Et donc, on fait le tour des hôpitaux psychiatriques. Et ça ne donne rien. Et puis un jour, on interroge la factrice d'Arconcé.
Chez Barry ? Je suis passé devant. Il était quoi, 11h15 ?
Vous vous souvenez si vous avez vu les chiens ?
Ah non ! D'habitude, il y en a toujours un qui vient aboyer au portail, et puis l'autre qui est attaché, mais là, ils étaient pas là. Hein.
Vous avez vu s'il y avait une voiture dans la cour ?
Il y avait leur camionnette, mais il manquait leur Ford, là, leur Ford Escort.
Ça colle avec les déclarations de Laurent Barry, qui dit qu'il a pris la voiture de sa femme. Et on apprend à l'occasion que les chiens ont été enfermés avant 11h15. En revanche, un voisin, qui lui aussi voit les chiens le matin quand il part en général, raconte que la camionnette est égarée en marche arrière, prête à partir. Il en est sûr. Et là, il y a un problème, parce que les gendarmes, quand ils arrivent juste après la découverte du corps de Valérie Barry, voient la camionnette garée dans l'autre sens, en marche avant. Or, Laurent Barry n'est pas censé avoir utilisé sa camionnette, puisqu'il part à 9h avec la Ford Escort et qu'il rentre avec la Ford Escort. À aucun moment, dans le récit de son emploi du temps, il ne monte dans la camionnette. Donc là, une lampe se rallume dans la tête des gendarmes. Et si malgré tout, malgré son alibi, c'était lui. Parce qu'en vérité, les gendarmes, entre nous, n'arrivent pas à croire à un cambriolage qui tourne mal. Le cambriolage, je vous rappelle le butin, hein, des chaussettes, un mug, des sacs à congélation, un bifton de 100 euros, et maintenant, il vient de s'en apercevoir, la montre Festina de Laurent Barry, valeur 150 euros. Ça ne tient pas debout. On n'a jamais vu un cambrioleur voler des sacs de congélation. C'est une mise en scène, une mauvaise mise en scène, mais une mise en scène tout de même. Et donc les gendarmes décident de passer la maison tout entière au luminol, un produit qui fait apparaître les traces de sang même les plus infimes. Avec un bémol, hein, tout de même. Le juge a autorisé la levée des scellés, et donc Laurent Barry est rentré chez lui avec sa maman, ils ont tout nettoyé. Et forcément, donc, le luminol vient un peu tard. Mais, dans la cuisine, on trouve quand même un petit quelque chose qui pourrait être du sang. Hein? Et puis dans la voiture, la Ford Escort, on trouve les chaussons de Laurent Barry. Après le drame, il est allé passer quelques jours chez sa maman, et il avait pris ses chaussons, il les a laissés dans la voiture, et sous la semelle de ses chaussons, il y a du sang. Tiens, tiens, il n'est pas rentré chez lui en chaussons. Il n'est pas en chaussons quand il découvre le cadavre de sa femme. Alors pourquoi y a-t-il du sang sous la semelle de ses chaussons? Hein? Là-dessus, l'attaque étant la meilleure défense, Laurent Barry lui-même vient désigner un suspect aux gendarmes. Un certain Ludovic.
C'est plus ou moins un ami à moi. Il y a quelque temps, on a envisagé de s'associer. Lui aussi voulait se reconvertir dans l'aviculture.
Et vous avez des raisons d'avoir des doutes à son sujet?
Oui. Je crois qu'il tournait un peu autour de Valérie. Je me dis que ça peut faire un mobile, non?
C'est la raison pour laquelle vous ne le fréquentiez plus?
Non, c'est pas pour ça. Je vous ai dit, on parlait de s'associer. Puis il a cherché à m'entuber. Donc ça, c'est pas fait.
Intéressant. Les gendarmes font donc venir ce Ludovic, qui dit qu'il n'a pas vu Laurent Barry depuis 8 mois, qui prétend qu'il ne s'est strictement rien passé avec Valérie, mais qui raconte tout de même que l'autre lui a fait une fois une crise de jalousie, et qui confirme le projet de s'associer avec Laurent, et le différend financier qui les a éloignés, mais qui a un alibi. Le matin du 26, il était chez ses parents, et les parents confirment. C'est une fausse piste. Fausse piste aussi quand on s'intéresse au simplet du hameau, Pascal. Un vieux garçon un peu bizarre, sauvage, qui vit seul avec ses bêtes. Le suspect idéal. Les gendarmes débarquent chez lui, le bougre se barricade à l'étage. Il refuse d'ouvrir.
Ouvre donc! T'as rien à craindre! Ouvre-nous!
Les gendarmes repartent, ils reviennent, et finalement l'autre leur ouvre. Oh le spectacle! Il y a des photos de femmes à poil partout scotchées dans la maison.
Et que faisiez-vous le 26 au matin?
J'étais en course.
On vérifie. C'est vrai. Il n'y est pour rien, Pascal. Mais bientôt tout le village saura ses petites manies. Et là qui revoilà, Ludovic. Le copain qui a failli s'associer avec Laurent et que l'autre a gentiment balancé.
Ouais, je suis venu vous voir parce qu'un truc m'est revenu. Une nuit, Laurent m'a dit qu'il préférait tuer des humains à des animaux.
Et il rappelle aux gendarmes le passé militaire de Laurent. C'est un ancien parachutiste. Et un parachutiste, ça sait manier le couteau. Alors, est-ce que la police scientifique va pouvoir impliquer Laurent Barry dans le meurtre de sa femme? Analyser les prélèvements réalisés sur la scène de crime prend toujours un peu de temps, mais ça y est, les résultats viennent de tomber. Les cheveux d'abord que Valérie Barry morte tenait dans ses mains, et ceux qu'il y avait sur le bas de son jogging. On espérait que ce soit les cheveux du tueur. Eh bien non. D'après l'analyse ADN, ce sont ses propres cheveux. Et idem pour l'ADN retrouvé sur la lame du couteau, c'est la sienne. En revanche, on a aussi trouvé une trace ADN sur la caisse, dans laquelle a été volé le fameux billet de 100 euros. et c'est l'ADN du mari, Laurent. Mais ça ne suffit pas à l'impliquer. C'est lui qui manipulait cette caisse couramment. Quant aux soi-disant traces de sang révélées par le luminol dans la cuisine, eh bien finalement, ça n'est pas du sang. Contre Laurent Barry, il ne reste que les traces de sang sous ses chaussons, inexpliquées. Mais ça n'est pas suffisant pour envoyer l'oiseau devant la cour d'assises. Et pendant un an et demi, on en reste là. Jusqu'en octobre 2005, où arrive un nouveau directeur d'enquête qui reprend tout à zéro et qui notamment décide de réécouter en boucle l'appel téléphonique de Laurent Barry aux pompiers.
Monsieur, parlez moins fort, je ne vous comprends pas. Vous êtes où ?
Je suis à l'anneau !
Marche arrière, marche avant, stop. Et d'un coup, fais-moi réécouter ça, là. Voilà, ici. Écoute.
Ma femme ! Elle est par terre !
On entend les chiens, non ? Il dit qu'il sait pas où sont les chiens, mais... On les entend quand ils passent le coup de fil, non ?
Je vous envoie les pompiers.
Incroyable ! Ça serait la preuve que Laurent Barry ment. L'enregistrement est envoyé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Il est analysé par des experts. Et oui, on entend bien les chiens, en arrière-plan. Il ment depuis le début, quand il dit que les chiens ont disparu. Et en relisant le dossier, le nouveau chef d'enquête bute à son tour sur cet improbable cambriolage. Alors qu'il y avait des bijoux qui n'ont pas été volés, une collection de pièces dans la chambre du gamin, qui est toujours là. Et il arrive lui aussi à la conclusion que le cambriolage ne tient pas. Depuis le début de l'enquête, il y a plus d'un an, Laurent Barry reconnaît qu'il y avait du tangage dans son couple, lié aux difficultés qu'il rencontrait dans son élevage. Mais en creusant, on s'aperçoit que c'était beaucoup plus que du tangage. Il y avait un vrai conflit. Et notamment une séquence qui jusque-là avait totalement échappé à l'enquête. 6 mois avant le meurtre, le fils aîné de Valérie, Thomas, 12 ans à l'époque, se plaint de son beau-père auprès d'une psychologue. Il l'accuse à l'époque de lui avoir lacéré ses baskets. Et Laurent Barry porte plainte contre lui pour diffamation. Un gamin de 12 ans. Et on retrouve la trace de cette plainte. Il y a eu une enquête à l'époque. Et une gendarme à l'époque a rencontré Valérie. Et voilà ce qu'elle lui a dit, 6 mois avant de mourir. « Je regrette énormément d'avoir quitté mon appartement douillet pour cette vie dans une maison de campagne. Ici, rien n'est terminé. On vit dans un chantier. Je regrette ma vie d'avant. Je regrette d'avoir suivi Laurent ici. » Elle n'en pouvait plus de son histoire d'élevage de poulets, qui en plus, ça se confirme, ne marchait pas. Les gendarmes étudient les comptes, le couple était au bord de la faillite. Au moment où Valérie meurt, les Barry ont 2000 euros de découvert à la banque et une facture EDF de 800 euros impayée. Et ils ont demandé des reports sur le crédit de la maison de l'anneau. Ils étaient au bord du gouffre, ça pesait sur le couple. Les gendarmes apprennent que certaines nuits, Laurent dormait dans son camion. Et en grattant encore dans les relevés téléphoniques de Valérie, ils s'aperçoivent que fin 2003, 3 mois avant de mourir, Valérie a appelé des agences immobilières. Elle cherchait un appartement. Elle voulait se barrer. Et l'un des agents immobiliers raconte une scène qui pourrait être l'étincelle du crime. Bah, un jour, j'ai appelé chez elle. Et puis, je suis tombé sur son mari. Je lui ai dit, j'ai un appartement à faire visiter à votre femme. C'est comme ça que Laurent a appris que sa femme voulait se tirer. Est-ce que ça ne fait pas un mobile, ça ? Deux ans après le meurtre de sa femme, Laurent Barry est placé en garde à vue. Le même jour, une perquisition a lieu chez sa mère. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? La montre Festina qu'il disait s'être fait voler dans le cambriolage. Et vers 21h...
Bon, d'accord. C'est moi qui ai organisé le faux cambriolage. Mais je peux vous expliquer. Quand j'ai découvert le corps, j'avais peur qu'on m'accuse. Alors j'ai renversé le sac de Valérie. J'ai mis le bazar avec les vêtements et les bijoux. En fait, j'avais peur que mon beau-père m'accuse du meurtre.
Il reconnaît aussi que c'est lui qui a enfermé les chiens. À sa demande à elle, dit-il. Et il reconnaît enfin une dispute ce matin-là.
Bah oui, on s'est un peu engueulé. C'était sur le ponçage des poutres du salon. Elle savait pas faire.
Mais il ne va pas plus loin. Il ne reconnaît pas le meurtre. Et pourtant, à l'issue de sa garde à vue, le juge le met en examen pour le meurtre de sa femme. Étonnant, parce qu'il a un alibi, Laurent. Il était à Dijon au moment du meurtre. Je vous rappelle la chronologie. Laurent Barry dit qu'il part à 9h de chez lui. Le restaurateur, à qui il livre ses poulets, dit qu'il arrive au restaurant à 10h15. Il aurait donc mis 1h15 pour aller à Dijon. Alors qu'en pratique, il ne faut que 40 minutes. Les gendarmes ont mesuré. Jusque-là, on ne s'était pas attardé sur ce hiatus, mais à bien y réfléchir. Et s'il était parti plus tard qu'il ne le dit? À 9h30, 10h moins le quart. Là, il aurait eu le temps de tuer sa femme avant de partir. Et dans ce cas-là, il n'a plus d'alibi. Au moment de boucler son dossier, le juge retient un scénario. Laurent Barry tue sa femme avant sa livraison à Dijon. Il met en scène le faux cambriolage avant de partir. Et on peut imaginer qu'il enferme les chiens dans l'espoir que quelqu'un d'autre découvre le corps, pour que les chiens n'empêchent pas un visiteur de rentrer dans la maison. Mais personne ne vient. Et il est obligé de faire son cinéma à son retour de Dijon, son appel éploré. Ça se tient. Ça se tient tout ça, mais ça n'est pas très étayé, vous en conviendrez, ça manque de preuves. Est-ce que ça va passer devant la cour d'assises? La preuve que le dossier est fragile, Laurent Barry, que le juge avait envoyé en prison, est libéré dans l'attente de son procès. Paraît donc libre devant la cour d'assises de Dijon en octobre 2009. Notez au passage qu'il a toute sa famille avec lui. Son fils aîné, sa mère, sont convaincus de son innocence. Mais le troisième jour, le procès bascule sur un détail. Le président fait projeter sur grand écran les photos de la scène de crime. Et sur la photo numéro 29, qu'est-ce qu'on voit? À l'entrée de la maison, posée sur le paillasson, les fameux chaussons, ceux-là même qu'on a retrouvés avec une trace de sang sous la semelle.
Monsieur Barry, est-ce que ça n'est pas là la preuve que vous portiez ces chaussons au moment du meurtre, le matin, avant de partir? Ben non, si ça avait été le cas, ils auraient été couverts de sang. Ils le sont pas.
Pas faux. À ce moment-là, sa mère vole à sa rescousse.
Mais enfin, ces chaussons... C'est moi qui les ai mis le lendemain quand on a fait le ménage en grand. C'est pour ça qu'il y a du sang dessus.
Mouais. L'avocat général réclame 20 ans de réclusion criminelle contre Laurent Barry. Et les jurés sont d'accord avec lui. Il lui colle 20 ans. À l'annonce du verdict, sa famille hurle.
Il est innocent! Il est innocent!
Laurent Barry fait appel, bien sûr. Il est rejugé en novembre 2010 à Besançon et il est à nouveau condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et aujourd'hui encore, depuis sa prison, il clame son innocence.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.